Voilà, PDU, point numéro 5, Marianne Isler-Bega, donc sur le podium, j'allais dire sur le...
Bien, Monsieur le Président, chers collègues, c'est vrai que là, on arrive au bout de 5 années de travail, vraiment, je crois, harassant, mais passionnant. Et effectivement, pour suivre la feuille de route que vous aviez fixée à votre vice-présidente chargée de la mobilité. Alors, tout d'abord, je tiens quand même à remercier les personnes qui ont travaillé. Et vraiment, je tiens à remercier d'abord les services de Metz Métropole et une personne qui n'est pas ici, mais c'est José Wagner. José Wagner, je pense qu'on peut dire, enfin je peux le dire, il m'a appris le métier. Il y a une différence entre faire partie, être membre d'une commission mobilité au Parlement européen où on se projette et être vraiment... ici, président d'une commission mobilité où on a affaire tous les jours, eh bien, c'est comme les collègues des déchets, eh bien, il faut répondre, un bus qui arrive en retard, telle chose et telle chose. Donc, il y a vraiment, donc, merci à José qui a pris sa retraite en bonne santé. Donc, vraiment, je lui souhaite une bonne retraite. Et ben, ceux qui étaient là aussi, hein, lorsqu'il n'était pas là, José, et puis principalement... Cyril Dansa, parce qu'il m'a accompagné partout dans les réunions multiples et variées. Je ne les ai pas comptées, parce que vraiment, pendant 5 ans, on s'est vraiment promené à travers notre métropole. Et puis, bien sûr, sans notre agence, sans l'Aguram, eh bien, on n'aurait pas pu sortir ce PDU, parce que lorsque vous regardez le nombre d'études qu'ils ont menées pour arriver à cette synthèse, je crois que vraiment, nous pouvons dire que nous avons des gens d'excellence. Je le vois là-bas, il se cache, Stéphane et Graz, ce sont vraiment des personnes qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils parlent de mobilité. Et moi, je porte ce dossier, mais je ne suis pas une spécialiste comme certains d'entre vous. Alors, remercier également les membres de la commission mobilité, parce qu'en fin de compte, je crois qu'ils ont été un peu piégés. Ils ont été, en fin de compte, un peu le comité de pilotage de ce PDU, parce que rajouter encore des sous-commissions PDU, en sachant que tout le monde était déjà archi-overbooké au niveau des commissions, eh bien, c'est eux qui ont servi de comité de pilotage, parce que tout ce qui est proposé dans ce document a été validé, a été étudié, a été discuté en commission transport, en commission mobilité. Et donc, merci à eux, parce que vraiment, ils ont répondu présents tout le long. Et les nombreuses discussions qui a eu lieu, c'était pas toujours évident à piloter ce navire, mais bon, on a réussi dans les temps à vous présenter ce PDU. Alors bien sûr, d'autres personnes doivent être remerciées, notamment les collègues du CODEV. Ils se sont vraiment investis parce que pour eux aussi, la mobilité, ça compte. Ils nous ont également entraînés dans une étude intéressante avec l'IRTS sur le questionnement des exclus totales de la mobilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas prendre ni nos transports en commun, ni même le vélo ou les trottinettes, parce qu'ils sont carrément exclus de la mobilité. Donc, ils ont réfléchi pendant 1 an. Donc, on avait là 4 étudiants ingénieurs, ça s'appelle des étudiants ingénieurs dans le social, qui ont travaillé et qui ont rendu un document qui sera bientôt disponible et qui nous a aussi permis d'aller dans le sens de réfléchir sur des tarifs sociaux sans doute à mettre en place peut-être encore cette année. Alors les associations aussi, donc tout le monde et vous qui avez soutenu, et vous Monsieur le Président qui avez soutenu et encouragé à aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que Il y a peut-être une petite frustration de ma part parce que j'aurais peut-être aimé faire plus de réunions publiques carrément, mais vous savez qu'on a mis un certain temps pour mettre en place l'enquête déplacement grand territoire parce que nous voulions vraiment le mettre en place avec sur le territoire du SCOTAM et que bon ben là on a perdu un peu de temps parce qu'il a fallu convaincre, hein, et je remercie aussi le président du SCOTAM d'avoir réussi à convaincre les collègues pour que cette enquête soit mise en place sur la totalité du SCOTAM. Et là encore, hein, je vous encourage, pour ceux qui ont vraiment envie de connaître notre territoire, d'aller sur le site de l'Aguram pour voir tout ce qu'aujourd'hui on peut tirer de cette enquête déplacement grand territoire. C'est une mine d'or de données qui nous ont servi pour ce PDU, mais qui vont nous servir et qui vont vous servir pour mettre en place le projet métropolitain. Alors, parler de la mobilité, parler des déplacements, tout le monde a envie de participer et voit la mobilité par son bout de la lorgnette, et ce qui est tout à fait normal, et ça permet justement d'avancer et d'aller plus loin. Alors juste, peut-être avant de commencer la présentation, la semaine dernière, jeudi dernier, il y avait un débat à Blida sur la mobilité en 2049. Alors bon, évidemment, on était très intéressés pour savoir ce qui s'allait proposer pour 2049. Et en fin de compte, bon, on a été un peu surpris parce qu'il n'y avait rien de neuf encore pour l'instant. Bah, il n'y a rien de neuf parce que les interrogations persistent. Quel est le carburant en 2049 ? Interrogation. Tout le monde pense électrique. La conclusion, ça a été, c'est peut-être une mauvaise bonne solution parce que, bon, aujourd'hui, par exemple, les batteries de nos Métis, hein, combien de temps ils vont durer, on n'en sait rien. Hein. On est au stade expérimental à ce niveau-là. Donc, quand il faudra les changer, eh bien, vous savez combien ça coûte. C'est une fortune aussi. Donc, est-ce que c'est ça la solution ? On n'en sait rien et personne n'en sait rien. Mais par contre, ce qui a été intéressant pour moi, c'est un sociologue qui a fait une petite démonstration pour dire qu'aujourd'hui, on est dans le toujours plus rapide, toujours aller de l'avant, courir. Et en fin de compte, aujourd'hui, on va vers un ralentissement. Le slow est vraiment peut-être quelque chose qui va être à l'ordre du jour en 2050, parce qu'il faut ralentir, il faut qu'on ralentisse cette course en avant qui nous entraîne, bon ben ça a été dit tout à l'heure, hein, qui nous entraîne quand même dans un certain délire, et maintenant il faut trouver le moyen de faire différemment, parce que, eh bien, il y en a qui disent, et surtout les jeunes qui sont dans les rues toutes les semaines, qui nous disent « dans 12 ans c'est trop tard ». Alors on se dit, waouh, si dans 12 ans c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Donc effectivement, aujourd'hui, moi je suis particulièrement satisfaite aussi, parce qu'au niveau culturel, les gens ont compris que l'écologie, ce n'était pas quelque chose de punitif, que vraiment c'était un projet de société qui prend en compte bien les enjeux aujourd'hui pour permettre à chacun de vivre sur Terre. Et comme tu l'as dit, Guy, ce n'est pas la planète qui est en danger, c'est les êtres qui la peuplent qui sont en danger. Et nous, on est aussi sur la liste peut-être des espèces en voie de disparition. Donc, et j'ai mon père spirituel, là je me laisse un peu aller, qui s'appelle Théodore Monod, qui était un grand homme. Lorsqu'on lui a posé la question, professeur, et si l'espèce humaine devait disparaître, parce que vraiment, elle va droit dans le mur, il a répondu, ce serait dommage. Et effectivement, ce serait dommage pour tout le monde, mais enfin, on a une responsabilité. Donc, à nous de l'assumer. Et j'espère que ce PDU, il va contribuer à faire un peu notre part et aller bien au-delà. C'est dommage que Monsieur le maire de Metz ne soit pas présent, parce qu'il me reprochait que ce PDU n'a rien de révolutionnaire. Le PDU, on n'a pas à faire un projet révolutionnaire, parce qu'on n'arriverait pas à l'appliquer. Il faut que ce soit un projet ambitieux, une forte ambition, mais qu'il soit réalisable, Parce qu'aujourd'hui, ce que nous allons mettre en place et ce que les suivants vont mettre en place dans les 10 ans à venir, eh bien, il faut que ce soit réaliste. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être, on n'a pas toutes les données encore et on ne les a pas. Et là, j'anticipe, c'est la troisième ligne. Effectivement, on sait qu'aujourd'hui, les études sont encore en cours pour cette troisième ligne BHNS. Donc, on ne sait pas combien elle va coûter. Donc, selon ce qu'elle va coûter, eh bien, on verra si, eh bien, s'il faudra ensuite abonder le budget transport par le budget général, si on veut aller jusqu'au bout ou pas. Donc, effectivement, ce sont des interrogations encore. C'est pas une bible, hein, c'est pas quelque chose qui est complètement rigide. Et d'ailleurs, je vais vous lire ce que c'est que le plan de déplacement urbain. Il détermine les principes régissant l'organisation du transport de personnes et de marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité. Donc c'est vraiment c'est les principes, c'est vraiment les grands principes, les grands axes où on doit se projeter. Alors avant de commencer la présentation, je voudrais dire que nous avons fait un erratum sur l'étude annexe, c'est-à-dire l'étude environnementale, parce qu'il y a des petites coquilles par rapport aux syndicats intercommunaux. Donc ça a été corrigé, donc ça va vous être envoyé. Mais il fallait le dire pour pas qu'il y ait des gens qui montent au créneau en disant qu'est-ce que vous avez raconté dans cette étude environnementale.